VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui. Édition du mardi 18 février 2020. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo loue à Luanda la lutte du président João Lourenço contre la corruption en Angola.
En Mauritanie, début des manœuvres militaires anti-djihadistes sous commandement américain, alors que Washington envisage une réduction de ses forces en Afrique.
Au Mali, 5 morts et des disparus dans l'attaque d'un village du centre. Et on déplore 3 morts dans une attaque de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun.
Le bilan du nouveau coronavirus a atteint 1886 morts en Chine mardi, en Chine continentale.
En Syrie, le président Bachar al-Assad s'engage à poursuivre l'offensive dans le nord-ouest pour libérer l'ultime grand bastion tenu par les djihadistes et les rebelles.
En dossier, les droits de l'homme au Rwanda après le suicide en prison du célèbre chanteur Kizito Mihigo.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Avant Addis Abeba, troisième et dernière étape de sa première tournée en Afrique, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est entretenu hier à Luanda avec le président João Lourenço. Il a salué la lutte contre la corruption engagée par le leader angolais, notamment contre la famille de son prédécesseur, José Eduardo dos Santos. Les précisions de John Lyndon.
En 2 ans et demi au pouvoir, le président Lourenço a abattu un travail formidable pour faire de la corruption un fantôme du passé, a déclaré Mike Pompeo lors d'une conférence de presse après s'être entretenu avec le président angolais. João Lourenço augmente la transparence, il aide les institutions financières à faire le ménage et poursuit les coupables, a salué le secrétaire d'État américain en tournée en Afrique. Depuis qu'il est président, João Lourenço, membre du parti au pouvoir depuis l'indépendance de l'Angola en 1975, a procédé à d'importants changements dans les institutions, les entreprises publiques et l'appareil sécuritaire du pays au nom de la lutte contre la corruption. Plusieurs proches de son prédécesseur sont directement visés, notamment la fille de l'ex-président Isabelle dos Santos, limogée de son poste de PDG du géant pétrolier public Sonangol et son demi-frère José Filomeno dos Santos, qui présidait le fonds souverain du pays. Le secrétaire d'État américain s'est également dit encouragé par les efforts du gouvernement angolais en vue de privatiser 195 entreprises publiques, une décision qui va grandement attirer des investissements privés.
Au moment où Washington examine une réduction de ses forces en Afrique, d'importantes manœuvres militaires annuelles sous commandement américain ont débuté lundi dans le centre-ouest de la Mauritanie. Participent à ces manœuvres quelques 1600 soldats de pays africains et occidentaux. Bagassi Koura.
L'exercice Flintlock est organisé depuis 2005 par AFRICOM, le commandement des États-Unis pour l'Afrique. Le but est de renforcer la capacité des principaux pays partenaires de la région à lutter contre les organisations extrémistes violentes, à protéger leurs frontières et à assurer la sécurité de leur population, selon le site de l'ambassade des États-Unis en Mauritanie. Une cérémonie d'inauguration de l'édition 2020 a eu lieu lundi à Attar, dans le centre-ouest de la Mauritanie. Les exercices qui doivent s'achever le 28 février se dérouleront également à Nouakchott et Kaédi en Mauritanie, ainsi que dans la ville sénégalaise de Thiès. Parmi les 15 pays africains qui prennent part aux manœuvres figurent le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria et le Sénégal. En plus des États-Unis, une quinzaine de pays non africains, dont la France et le Japon, participent à l'exercice selon l'ambassade américaine à Nouakchott.
Au Mali, des assaillants armés à moto ont tué 5 civils hier dans un village du centre du pays et une 20aine de personnes ont été portées disparues. Selon des sources locales, ils ont également brûlé des greniers, pillé des stocks de céréales et sont partis avec des bovins. Par ailleurs, un gendarme a été tué dans une autre attaque contre un poste de péage à la sortie de la localité de Bla, selon le ministre de la Communication. On déplore dans le centre du Mali une multiplication des affrontements entre Peul d'une part, Bambara et Dogon de l'autre, ainsi qu'une poussée djihadiste.
Au Niger, une 20aine de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées et plusieurs blessées hier. dans une bousculade provoquée par une distribution de vivres et d'argent à des réfugiés et personnes déplacées à Diffa, dans le sud-est du pays. L'aide était offerte par le gouverneur de l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria, qui est allé lundi visiter les sites de réfugiés nigériens ayant fui les attaques de Boko Haram et qui sont installés dans plusieurs zones de la région de Diffa depuis 2015.
La pression djihadiste est très forte dans l'extrême nord du Togo. C'est ce qu'a affirmé le président Fornia Singbe, qui a rendu visite à ses troupes déployées le long de la frontière avec le Burkina Faso. Des détails avec Abdourahmane Dia.
La menace est réelle et la pression est très forte. Nous avons connu récemment des combats jusqu'à 7 kilomètres de notre frontière, a déclaré le chef de l'État togolais, alors qu'il se rendait sur des postes militaires avancés près du Burkina voisin, déchirés par les violences. Nous notons que les attaques au Burkina sont de plus en plus meurtrières. Malheureusement, le Bénin aussi vient de subir un coup, donc cette pression, nous la ressentons chaque jour un peu plus, a-t-il ajouté. Le président dit essayer de tirer les leçons de ce qui se passe ailleurs, et pour lui, les populations, les leaders religieux et les chefs traditionnels doivent aider les forces de défense et de sécurité. Notre principale richesse, c'est la stabilité et la sécurité, et si nous perdons cela, tous nos projets de développement seront compromis et remis en cause, a-t-il également affirmé. Le chef de l'État a rappelé que plusieurs arrestations avaient eu lieu ces derniers mois sur le territoire togolais. L'élection présidentielle se tient samedi au Togo.
En seconde partie de cette édition, nous reviendrons sur la campagne électorale au Togo avec notre correspondante Kay Lawson.
Au Cameroun, des responsables sécuritaires ont annoncé hier que le groupe djihadiste Boko Haram a tué 3 civils dans la nuit de samedi à dimanche dans une localité de l'extrême nord. Le point avec Irénée Herman Ungo.
Le bilan de l'attaque a été confirmé par un officier de l'armée en poste dans la région. La première victime a été décapitée, la seconde tuée par balle, alors que la troisième est morte calcinée. Les assaillants ont incendié une centaine d'habitations, a détaillé l'officier de police. Selon lui, 3 enfants sont portés disparus depuis l'attaque. Les djihadistes ont aussi pillé des commerces et volé des céréales. Né au Nigeria en 2009, l'insurrection de Boko Haram s'est propagée en 2014 dans l'extrême nord du Cameroun, qui borde une partie du lac Tchad. Sa faction affiliée au groupe État islamique ISWAP est particulièrement active dans cette zone. Depuis plusieurs mois, les attaques djihadistes se sont intensifiées autour du lac. Outre ces attaques djihadistes dans le nord, l'armée et des groupes séparatistes s'affrontent dans les 2 régions anglophones. Des exactions et des crimes contre des civils sont perpétrés par les 2 camps, selon les rapports d'ONG internationales. Ce conflit a fait plus de 3000 morts et forcé environ 700 000 personnes à fuir leur domicile. Selon des ONG.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre toute mesure disproportionnée face au coronavirus, alors que l'épidémie a déjà fait près de 1900 morts. Le nombre de contaminations en Chine continentale, hors Hong Kong et Macao, a grimpé mardi à 72 300. Ailleurs dans le monde, environ 900 personnes contaminées ont été recensées dans une trentaine de pays et territoires. Mais l'OMS s'est voulue rassurante lundi. En dehors de la province chinoise du Hubei, épicentre de l'épidémie, la maladie touche une très petite proportion de la population et son taux de mortalité n'est pour l'heure que d'environ 2%.
En Syrie, le président Bachar al-Assad s'est engagé lundi à poursuivre l'offensive dans le nord-ouest pour libérer l'ultime grand bastion tenu par les djihadistes et les rebelles. Il a fait cette promesse au lendemain de la reconquête par ses forces des abords de la métropole d'Alep, alors que l'ONU réitère ses appels pour un cessez-le-feu dans la région d'Idleb et les territoires attenants. Les combats et frappes aériennes y ont fait des dizaines de morts, mais aussi, selon l'ONU, plus de 900 000 déplacés depuis décembre. L'offensive gouvernementale est appuyée par l'aviation de l'allié russe de M. Assad.
Le Pakistan n'est plus un sanctuaire pour extrémistes, a affirmé lundi le premier ministre pakistanais Imran Khan, ajoutant qu'Islamabad soutenait pleinement le processus de paix en Afghanistan. Islamabad a été accusé par Kaboul et Washington d'héberger et de soutenir les groupes extrémistes actifs en Afghanistan, notamment dans les zones tribales pakistanaises à la frontière afghane, ce que nie le Pakistan. À noter que les États-Unis et les talibans ont conclu une trêve censée mener à un accord en vue d'un retrait des troupes américaines d'Afghanistan en échange de garanties sécuritaires. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le gouvernement malgache envisage de mobiliser plus de 17 milliards de dollars de ses propres ressources pour financer ses projets de développement dans les 4 prochaines années. Il cherchera aussi le même montant auprès des partenaires au développement et des investisseurs privés pour améliorer des industries électriques, minières et touristiques du pays. Les autorités sénégalaises ont conclu 5 accords de partenariat avec des entreprises américaines en marge de la visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo au Sénégal. Selon l'agence Ecofin, les contrats portent sur le développement, le financement et l'exécution de projets dans plusieurs secteurs dont l'énergie, la technologie, la santé, les infrastructures sociales et routières, l'éducation, le logement et les soins sanitaires. Pour terminer, la République démocratique du Congo doit revoir son budget 2020 à la baisse de près de moitié, a annoncé le ministère des Finances. La loi de finances 2020 prévoyait un budget de 10,59 milliards de dollars. Cependant, le plan de trésorerie qui tient compte de l'exécution du budget ne prévoit plus que 5,45 milliards de dollars de dépenses. Ce budget devait financer le chantier de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques lancé en septembre 2019. Son coût a été estimé à 2,6 milliards de dollars.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le tirage au sort du CHAN 2020 a été effectué.
Oui, le tirage au sort fait à Yaoundé en présence du président de la CAF a livré de chaudes empoignades en perspective. Présentation des poules avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jelentap.
Le Cameroun, pays hôte, hérite dans sa poule d'une équipe d'Afrique australe, le Zimbabwe, et de deux sélections d'Afrique de l'Ouest, le Mali et le Burkina Faso. Camerounais et Zimbabwe vont donner le coup d'envoi de la compétition à Yaoundé le 4 avril. Il n'y a plus de petites équipes, même si le tirage au sort semble abordable pour le Cameroun, a commenté l'ancien international camerounais Salomon Olembe à l'issue du tirage au sort. Pour passer au second tour, le tenant du titre, le Maroc, va se battre dans le groupe C contre le Rwanda, le Togo et l'Ouganda. Le tirage au sort d'hier a aussi offert un duel fratricide dans le groupe B entre les deux Congos qui se retrouvent et auront comme adversaires le Niger et la Libye. La dernière poule, la poule D, s'annonce aussi élevée avec 3 pays au style de jeu quasi similaire, la Namibie, la Tanzanie et la Zambie. La Guinée se retrouve esselée au milieu des 3. Le CHAN 2020 va se disputer du 4 au 25 avril prochain sur les sites de Yaoundé, Douala, Japoma et Limbé. Le Cameroun aura là l'opportunité de faire un test grande nature en prélude à la CAN 2021 que le pays devra abriter. Yaoundé, Emmanuel Jelentap, VOA Afrique.
Début des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce soir en Europe.
Deux chocs de haut vol en ouverture entre d'une part Dortmund et le Paris Saint-Germain et d'autre part l'Atlético Madrid et Liverpool. Les Reds tenants du titre partent favoris face aux Espagnols. En confiance, les champions en titre anglais peuvent s'appuyer sur des résultats exemplaires sur le plan domestique. Une seule défaite lors de leurs 56 dernières rencontres en Première Ligue. De quoi impressionner l'Atlético en plein doute après un mois de janvier calamiteux sur le plan domestique. De son côté, le PSG tentera de rompre la malédiction qui semble le poursuivre à ce stade de la compétition. 3 éliminations sur les 3 dernières années en 8e.
Et nouveau record du monde pour Joshua Cheptegei.
Oui, l'Ougandais a couru 5 km en 12 minutes 51 secondes à Monaco. Avec ce chrono, Joshua Cheptegei est le nouveau recordman du monde sur la distance. Le record était détenu depuis le 12 janvier par le Kenyan Rhones Kipruto. Il y a 4 mois, Cheptegei devenait champion du monde du 10 000 mètres à Doha au Qatar. De quoi bien préparer les prochains Jeux Olympiques Tokyo 2020. Le 5 km n'est reconnu que depuis 2 ans par la World Athletics, la Fédération internationale d'athlétisme.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Togo, la campagne électorale pour la présidentielle du 22 février prend fin ce jeudi. Elle se déroule sans incident, mais les candidats se plaignent de n'avoir toujours pas touché l'enveloppe attendue de l'État togolais. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Les candidats à cette élection présidentielle sont dans l'expectative des 42 millions de l'État togolais comme contribution pour le financement de la campagne électorale. Malheureusement, à 3 jours de la fin de cette campagne, les candidats lorgnent toujours du côté du trésor public sans gain de cause. Une situation jugée inadmissible par le CACIT. Ghislain Nyakou, directeur exécutif de cette organisation de la société civile.
La campagne est pratiquement arrivée à son terme. Aucun parti politique n'a encore reçu le financement. Cela nous étonne d'autant plus qu'il y a récemment un décret qui est sorti, qui a reprécisé le montant qui doit être alloué. Donc pour nous, il faut que les partis politiques rentrent dans leurs droits.
Le retard accusé dans le décaissement de ces fonds paralyse les activités prévues par les candidats, aussi bien ceux de l'opposition que celui du pouvoir. Le ministre des Droits de l'Homme chargé des relations avec les institutions de la République, Christian Trimoin, par ailleurs représentant du candidat du parti au pouvoir, évoque des procédures administratives.
Le gouvernement travaille à cela. Je comprends un peu les procédures financières qui font que le décaissement devrait se faire, il me semble, dans les jours à venir très rapidement pour que nous puissions, en tant que candidats, disposer également des moyens nécessaires à cette compétition. Nous espérons, nous poussons que ça se fasse avant la fin de la campagne. Nous avons des dépenses à assurer avec cet argent-là et naturellement, nous demandons au gouvernement de faire le maximum pour que nous puissions également rentrer dans nos fonds pour soutenir notre candidat convenablement comme il se doit.
Dans l'opinion collective, le gouvernement togolais aurait sciemment bloqué les fonds pour empêcher les autres candidats de pouvoir se déployer comme cela se devait. Au même moment, le parti Unir aussi dit se plaindre de n'avoir pas reçu ce financement. Ghislain Nyakou revient pour clarifier les motivations qui sous-tendent le financement de la campagne électorale par l'État.
Ceci aurait permis que chaque parti ait les moyens, un peu de moyens quand même, pour pouvoir faire la campagne et toucher les populations avec leur programme de société. Nous savons que tous les partis politiques n'ont pas forcément les mêmes moyens. C'est pourquoi le législateur a prévu une loi. Je pense que c'est l'esprit, la lettre de la loi. Et ceci pour permettre à chaque candidat d'avoir un minimum pour faire la campagne.
L'article 10 de la loi portant financement public des partis politiques et des campagnes électorales dispose que l'État contribue au financement des campagnes électorales des partis et regroupements de partis politiques ainsi que des candidats ou listes de candidats dans le cadre des élections législatives et présidentielles. Dans le cadre de cette présidentielle, 500 millions de francs CFA ont été prévus, dont 60% devaient être répartis à égalité entre les 7 candidats et les 40% restants seront répartis proportionnellement aux suffrages obtenus entre les candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Rwanda, le célèbre chanteur Kizito Mihigo, dont la musique a été interdite par le pouvoir de Kigali, s'est suicidé dans sa cellule, selon la police, 3 jours après avoir été arrêté pour avoir tenté de traverser la frontière sud du pays vers le Burundi. L'artiste, qui a survécu au génocide de 1994 au Rwanda, avait été condamné à 10 ans de prison en 2015, pour conspiration contre le gouvernement, avant d'être remis en liberté. Ce décès relance les accusations en matière de droits humains contre le Rwanda. Jacques Aristide nous propose un dossier complet à ce sujet avec les réactions tant du gouvernement que de l'opposition exilée à l'étranger. D'abord, Emmanuel Hakizimana, deuxième vice-coordonnateur du Congrès national rwandais au Canada.
Kizito Mihigo, c'était un célèbre chanteur. Il chantait souvent, surtout dans la musique religieuse. C'est quelqu'un qui était très aimé au Rwanda et il avait été en fait incarcéré et condamné soi-disant pour avoir comploté contre le président de la République et il avait été gracié par le président de la République. Par la suite, justement, bon, il était retourné dans sa vie normale comme musicien. La semaine passée, on a eu l'information comme quoi il avait été arrêté en tentant de sortir du pays, soi-disant illégalement. Et là, c'est évidemment, on se pose des questions, comment est-ce qu'on peut être arrêté sur le territoire du Rwanda, être accusé de tenter de sortir du pays légalement, comme s'il y avait une partie du territoire sur lequel on n'a pas le droit de se positionner. Normalement, c'est le pays dans lequel il devait entrer, qui pouvait l'arrêter, advenant qu'il traversait effectivement de façon illégale la frontière. La police a dit qu'il s'était pendu avec les draps de lit, mais évidemment, connaissant qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là, il y a très peu de gens qui croient à cette version des faits. Parce que c'est à la même station de police qu'est mort le docteur Gassa Kouré. Il était médecin personnel du président Kagame en 2015. Et c'est à cette même station de police également qu'est mort l'avocat Donat Mutunzi en 2018.
Les détracteurs du régime de Kagame croient que la communauté internationale est muette sur le Rwanda. Partagez-vous cet avis?
Oui, je partage l'avis complètement. Le gouvernement rwandais dirigé par Paul Kagame n'a jamais été officiellement condamné par la communauté internationale. D'ailleurs, il y a un sommet du Commonwealth qui est prévu en juin, qui va se tenir à Kigali. L'entrée même dans le Commonwealth du Rwanda avait été comme quelque chose qui était très surprenant et très décevant. Si on regarde les valeurs sur lesquelles est fondé le Commonwealth, les valeurs de démocratie, de respect des droits de la personne, de justice, de liberté, toutes ces valeurs-là sont bafouées au Rwanda et pourtant il n'y a aucune condamnation vraiment très claire de la part de la communauté internationale et ça déçoit énormément les Rwandais. Par ailleurs, l'opposition rwandaise, ils ont demandé un dialogue entre l'opposition et le Rwanda. Jusqu'à présent, le président Kagame n'a pas accepté ce dialogue et il n'a jamais été condamné pour ça ou bien pressé par la communauté internationale à ce niveau.
Le Rwandais Emmanuel Hakizimana, il est également chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal. Les critiques ont donc refait surface. Human Rights Watch a notamment accusé le gouvernement rwandais d'exécutions sommaires, d'arrestations, de détentions illégales et de tortures en détention, ce que nie le pouvoir de Kigali. Toujours joint par Jacques Aristide, le secrétaire d'État au ministère rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe.
Le Rwanda Investigation Bureau, c'est-à-dire le bureau d'enquête du Rwanda, a diffusé un communiqué sur le suicide de Kizito Mihigo, qui était en détention. Ceci est une affaire de police, une affaire judiciaire, puisqu'il y avait des charges contre lui. Et donc ce n'est pas une affaire politique ou diplomatique sur laquelle le gouvernement doit se prononcer.
Olivier Nduhungirehe, secrétaire d'État au ministère rwandais des Affaires étrangères.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le coronavirus affecte les économies des pays qui entretiennent des liens commerciaux importants avec la Chine. Reportage au Sénégal de Seydina Abagué aux Allées Centenaires, appelé maintenant Chinatown de Dakar.
Aux Allées Centenaires de Dakar, l'affluence dans les magasins chinois et sur les rues adjacentes n'est pas aussi grande que d'habitude. Depuis l'apparition du coronavirus, une certaine peur s'est emparée des clients, mais également des vendeurs sénégalais qui travaillent avec les Chinois. Khadija Gaye témoigne.
Des fois, on a peur quand on entend que les Chinois débarquent au Sénégal. C'est normal d'avoir peur, même les clients ont peur. C'est pourquoi ils mettent des masques pour venir acheter. Certains se contentent juste de rester devant la boutique pour marchander. Même si aucun cas de coronavirus n'a été détecté au Sénégal, on n'est vraiment pas rassuré parce que si les frontières ne sont pas fermées, il est normal que ça suscite de l'inquiétude. D'autant plus qu'il y a des Chinois qui débarquent jusqu'à présent au Sénégal. Ça fait peur et on n'y peut rien parce qu'il n'y a même pas de dispositif de l'État.
Cette peur a fini par avoir une forte incidence sur le chiffre d'affaires des marchands de produits venant de la Chine. Adama Diaw côtoie les Chinois de Dakar depuis plusieurs années et il avoue que c'est la première fois qu'il observe un tel ralentissement des activités.
Le rythme du travail a considérablement baissé et bon nombre de nos marchandises en provenance de la Chine commencent à se raréfier. Il y a de quoi avoir peur pour notre travail parce que le marché chinois est mondial. Alors si leurs produits ne passent plus, ça se ressent. Les pays africains qui importent des produits chinois ont de grosses difficultés depuis l'apparition du coronavirus. Les grands pays comme les États-Unis et la France le ressentent certainement moins, alors que nous, nos pays, ne vivent que de produits importés, donc c'est très difficile et dans tous les domaines.
Malgré cette baisse du chiffre d'affaires et la présence dans les esprits du coronavirus, certains vendeurs comme Khadim Diagne gardent espoir et estiment qu'il ne sert à rien de stigmatiser les Chinois vivant au Sénégal.
On n'a pas peur parce qu'au moment de l'épidémie, nos collaborateurs n'étaient pas en Chine, mais il est quand même important de prendre toutes les précautions et filtrer les entrées dans le pays. Si cela se passe comme ça, on n'a aucune raison d'avoir peur. Certes, je n'ai pas vu de nouveaux entrants chinois dans le pays, mais les rumeurs persistent et cela peut amener la panique, même si on est habitué à les côtoyer quotidiennement. Mais globalement, je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur parce qu'il n'y a pas encore de cas confirmés au Sénégal.
Au-delà des interrogations et polémiques que le coronavirus a soulevées, avec notamment la question du rapatriement des 13 étudiants sénégalais de Wuhan, force est de constater que ce virus qui fait des ravages en Chine n'épargne pas les commerces de produits chinois dans la capitale sénégalaise. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Comme chaque année, Chicago a accueilli le déjeuner annuel de la NBA Africa en marge de son week-end All-Star 2020. Une occasion pour la NBA et la FIFA et la FIBA de dévoiler les 12 clubs et les maillots officiels de la Basketball Africa League, la première ligue professionnelle créée par la Ligue nord-américaine en dehors des États-Unis et du Canada. Yacouba Ouedraogo était sur place. Son compte-rendu.
C'est désormais une réalité, l'Afrique a sa ligue professionnelle. Et pour lancer ce nouveau joyau de la NBA sur le continent, la crème de la balle au panier a tenu à assister à cet instant historique. Dirigeants, anciennes et actuelles gloires du basket l'ont tous reconnu, il est temps pour le continent d'abriter sa propre ligue professionnelle. Adam Silver, commissaire de la NBA.
Nous avons lancé la NBA Africa avec notre bureau à Johannesburg, mais notre implication en Afrique date de bien avant cela. De cette période à nos jours, nous avons 40 joueurs en NBA qui sont nés en Afrique ou qui sont de la première génération d'Africains. C'est incroyable.
Un intérêt pour le continent qui a grandi et abouti à la création de cette ligue professionnelle de basketball. Andres Zaklis, secrétaire général de la FIBA.
La Ligue est un produit de la collaboration entre la FIBA et l'NBA, une collaboration déjà de 30 ans. C'est très important pour nous qu'après beaucoup de projets sur le développement, comme le Basketball Without Borders ou par exemple les Junior NBA dans plusieurs pays, maintenant nous avons un projet d'autre niveau, un projet d'une Ligue continentale africaine.
Les équipes qui participeront à cette saison inaugurale ont été présentées, de même que leur maillots et équipements sponsorisés par Nike et Jordan Brand. Pour un début, la balle a mis les moyens pour s'assurer de la suivi du projet. Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League.
Pour démontrer à quel point nous croyons à ce projet et à quel point nous croyons à notre opportunité en Afrique, nous allons investir lourdement au début pour nous assurer que les équipes aient les possibilités qu'il faut pour participer à cette saison inaugurale et au-delà.
Une chance donnée par la NBA aux générations actuelles grâce aux efforts de leurs dévanciers. La malienne Amchetou Maïgaba est une ancienne joueuse de la WNBA.
À travers ces compétitions, et ces jeunes auront des idoles qui pourront suivre et se dire « Non, moi aussi je peux le faire. » C'est pas seulement aux États-Unis, mais ici chez nous-mêmes on peut le faire.
Didier Mbenga, belge d'origine congolaise, a joué en NBA avec les New York Knicks. Il voit en cette Basketball Africa League l'aboutissement d'un travail de longue haleine.
D'abord, c'est une fierté.
liberté. Je suis vraiment content parce qu'on a travaillé sur ça. Et pour nous, c'est une très très grande opportunité de s'affirmer. Après tous les efforts fournis à travers le joueur africain en Amérique, il était temps pour nous maintenant d'être autonome, de s'assumer. Voilà pourquoi cette ligue, elle est vraiment bien.
Les champions des ligues nationales de l'Angola, d'Égypte, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de la Tunisie se sont qualifiés d'office pour la saison inaugurale. Les 6 autres équipes viennent d'Algérie, du Cameroun, de Madagascar, du Mali, du Mozambique et du Rwanda. Les clubs ont été divisés en 2 conférences de 6 chacune. Le Caire, Dakar, Lagos, Luanda, Monastir et Salé accueilleront les rencontres. Les premiers matchs auront lieu à Dakar au Sénégal donc le 13 mars prochain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.